RCF.
Anne-Laure Danet, vous savez certainement qu'au sein de l'Église catholique, beaucoup de choses sont en train de changer. Le pape François a lancé un synode sur la synodalité dans le sens d'une Église plus ouverte, plus inclusive, plus tournée vers les périphéries. Donc beaucoup de choses changent. Et certaines personnes peuvent considérer qu'il y a beaucoup de choses à faire au sein même de son Église et que même si elle ne plaît pas, même s'il y a des choses avec lesquelles on se sent en dissonance, bien, il faut rester justement pour œuvrer au sein de cette Église et puis essayer de mener le combat qu'on estime juste, dans un sens ou dans l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Je comprends très bien la démarche, parce qu'il ne s'agit pas de fuir le bateau quand ça ne va pas. Hein. Ça c'est sûr. Mais l'idée, encore une fois, c'est... D'abord, je voudrais saluer la démarche qui a été faite, lancée par le pape François avec ce synode. Je ne sais pas si on mesure l'ouverture énorme qu'il a provoquée rien que par la démarche synodale. Et là, c'est pour ça que je lui dis, là, ce n'est pas le moment de partir. C'est-à-dire, sa démarche synodale, c'était de dire, ça concerne pas simplement le niveau des experts, des évêques, mais vraiment les églises locales, c'est-à-dire chaque croyant. Et chaque croyant catholique pouvait s'engager dans la démarche. L'autre chose que je salue, c'est que dès le début, dans la phase préparatoire, il y a eu un volet sur l'œcuménisme. C'est-à-dire ça a été pris en compte. Et ça aussi, il faut le saluer. Parce que ça veut dire que l'Église catholique ne se reconnaît pas comme Église à elle toute seule. Il y en a d'autres. Et ils ont fait des consultations, mais alors tous azimuts, hein, autant du côté orthodoxe, anglican, protestant, et à tous les échelons. Au niveau mondial, au niveau continental, au niveau... national et au niveau local. Ça, c'est quand même extraordinaire comme démarche. Et l'idée, c'est... Oui, bien sûr qu'il y a des difficultés, mais toutes les églises ont des difficultés. Alors, il y en a des crises qui sont plus fortes que d'autres et qui ébranlent plus que d'autres. Ça, on le sait bien. Et c'est là où, pour moi, l'œcuménisme est très important, parce que là, il s'agit d'être solidaire. Quand un membre souffre, c'est tous les autres qui souffrent. Et là, il s'agit d'être ensemble, d'abord d'être présent. Présent, simplement une simple présence, en disant on est là et on prie les uns pour les autres. Et moi j'ai voulu aussi répondre présente à toutes les demandes sur ces questions, sur ce sujet synodal. J'ai été très frappée de voir que, par exemple, beaucoup de groupes ont cherché à savoir comment les protestants vivaient cette synodalité, puisque ça c'est notre fonctionnement depuis le XVIe siècle, depuis le début, et on n'a pas bougé là-dessus. Mais c'était pas obligatoire comme démarche, mais ça a été fait pourtant, hein. Et donc, quand je relativisais cette idée de dire « c'est pas d'abord l'appartenance à une église qui compte, c'est l'appartenance à Jésus-Christ », cette appartenance à Jésus-Christ, il faut l'incarner. On n'est pas chrétien du monde, ça veut rien dire, ça. Pourquoi ? Parce que être chrétien, c'est vivre avec des frères et des sœurs. C'est se nourrir spirituellement avec les autres. Ça suffit pas de se nourrir personnellement. Bien sûr, chacun peut lire. Ça vit tout seul. Chacun peut prier tout seul, mais ça ne suffit pas. Il faut les autres.
Il faut se coltiner la réalité aussi.
Oui.
De la communauté.
Et puis, ce serait d'une prétention inouïe de croire qu'on n'a pas besoin des autres. Et au contraire, Dieu nous a donné des frères et des sœurs, c'est-à-dire nous ne les avons pas choisis. Et c'est pour ça que la Bible utilise bien le mot frère et sœur. Comme dans une famille, on ne choisit pas ses frères et sœurs. C'est pareil, là. Et donc, vivre avec, ça fait partie aussi du chemin de foi. Et avec encore une nuance supplémentaire qu'on trouve là dans l'Épître aux Romains, c'est avancer, mais sans distancer celui qui est derrière, qui avance moins vite. Au contraire, il y a des moments où il faut l'attendre. Et puis rattraper celui qui va plus loin, lui disant « Hé, va un petit peu moins vite ». Il faut que c'est tout le monde, c'est ensemble qu'on avance.
Au même rythme.
Mais cet ensemble, il est alors pas forcément au même rythme, mais qu'à des moments, on est des points d'étape quand même, hein. Et cet ensemble-là, il est vraiment au niveau œcuménique. Ce n'est pas chaque église toute seule. Alors, il y en a qui avancent plus vite. Il y en a qui se font critiquer. Nous, on sait très bien que, par exemple, parce que c'était un sujet aussi qui a été abordé dans l'Église catholique, l'Église protestante unie de France a accepté, en 2015, la bénédiction des couples de même sexe, en rappelant que notre Église ne marie pas C'est une demande de bénédiction. Déjà là, il n'y a pas la même compréhension du mariage. Ce n'est pas un sacrement. Ça veut dire que, évidemment, que ça n'a pas été compris. Et cette bénédiction, elle est quel que soit effectivement le sexe des personnes. C'est notre compréhension du mariage. Ce n'est pas un sacrement et c'est une demande de bénédiction. D'accord. Et c'est Dieu qui bénit. Évidemment, ça a provoqué une onde de choc, ça on le sait très bien. Mais en même temps, on a pu s'expliquer, on a pu dire aussi ce que ça voulait dire, c'est-à-dire c'est ce qu'on a proposé, en plus extrêmement large, puisque c'est en fonction aussi de la méconscience du pasteur à qui c'est demandé et de son conseil. C'est-à-dire il faut que les deux soient d'accord. Donc c'est très large aussi. Ça veut dire que si on a dans notre union d'église des églises locales qui ne sont pas d'accord, elles ont le droit. Et celles qui sont d'accord, elles ont le droit aussi. Et c'est-à-dire que ce n'est pas des démarches qui sont massives. Mais quand je vois, par exemple, l'avancée du côté catholique, la première étape, ça a été de dire, quand le pape a dit, mais toute personne, quelle qu'elle soit, a sa place dans l'Église, y compris les homosexuels. Et là, qui propose cette démarche de bénédiction, alors non liturgique, on l'a bien compris, pour, par exemple, les personnes, les couples homosexuels, mais aussi pour les couples divorcés, c'est une ouverture.
Ça n'a pas fait l'unanimité. Hein.
Ah ben ça, je m'en doute bien. Quand c'est arrivé chez nous, ça n'a pas fait l'unanimité non plus. Et vous voyez, ça, c'est une manière aussi de s'entraider. On s'aperçoit que nos églises n'implosent pas. On avance. Et puis, bon, parfois, il faut attendre un peu. On avance encore, il faut attendre. Et le jeu œcuménique, c'est vraiment une entraide entre nous.
Alors justement, vous disiez quand une église est en difficulté, en souffrance, l'idée c'est pas de s'en réjouir et de se dire ah bah tiens, mais leur modèle, on savait bien de toute façon que ça finirait comme ça, mais de compatir.
De compatir, alors ça c'est la première chose, compatir. Et c'est un terme qui est essentiel dans la Bible, compatir. La compassion, d'abord le terme qui est utilisé dans la Bible, il est réservé à Dieu ou à Jésus. Étonnant, hein? C'est-à-dire, on pourrait le traduire, il est pris aux entrailles. La compassion, c'est pas intellectuel, c'est vraiment dans son être, il y a quelque chose qui s'ébranle parce qu'on est touché. Mais touché de façon à être proche de l'autre.
Mais qu'est-ce qui vous a fait souffrir, vous, par exemple, quand le scandale des abus a explosé au sein de l'Église catholique, quand on a reçu le fruit du travail de la commission Sauvé? Ça vous a touché?
Ah mais bien sûr. D'une part, par rapport aux victimes, parce que comme les autres, nous, on a découvert à la fois le sujet et l'ampleur. Par rapport aussi à tous ceux qui sont en responsabilité, parce qu'on a bien vu aussi un certain désarroi au début, hein, et puis un choc. Et nous, on en a parlé au niveau œcuménique, hein, on en a parlé au niveau des instances nationales, régionales, etc. Bien sûr qu'on en parlait. Et c'est ça qui est aussi une force, c'est-à-dire on était suffisamment en confiance pour en parler. Alors là, je me suis dit, quand même, c'est... Et en parler et pouvoir le prier aussi. Et voir s'entraider. Et l'entraide, elle a été dans les deux sens.
C'est-à-dire ?
Parce que la Fédération protestante a sorti un texte, justement, sur les abus sexuels, spirituels, etc. Mmh. On a fait travailler nos églises aussi sur cette question-là. On les a rendus plus vigilants. Mais on l'a fait, pourquoi ? Parce qu'il y a eu ce rapport de la CIAZ. Et puis ça voulait dire qu'on s'est aussi échangé nos documents au niveau œcuménique entre orthodoxes, catholiques, protestants. Et là aussi, on s'est entraidé dans la réflexion, alors à des échelles différentes. Mais ça n'empêche que porter dans la prière, dans nos cultes respectifs, mais aussi ensemble, ça change tout dans les relations.
Compassion, et ça demande une sacrée confiance quand même, d'échanger des documents. de ce genre-là, de cet ordre-là.
Les documents, et puis d'en parler,
ouais, d'en parler
à, de... à bâton rompu, hein, autour d'une, dans une
réunion. En vérité, quoi.
Voilà. Et ça, évidemment, ça crée des liens aussi très forts, ça c'est sûr, hein, parce que c'est ça aussi, pour moi, cette question d'être ensemble. J'ai parlé précédemment de cette identité ouverte et partagée. Ça veut dire d'abord accepter de s'exposer, dans le meilleur comme dans le pire.
C'est-à-dire s'exposer.
S'exposer.
Se montrer tel qu'on est.
Eh ben oui. Et ça, c'est pas évident du tout.
Ben oui, parce que ça rend vulnérable.
Eh ben c'est ça. Pour moi, la démarche de l'œcuménisme réceptif, c'est ce qu'on appelle aussi. Donc c'est chercher les richesses qui sont chez l'autre et que j'ai pas. Mais c'est d'abord et avant tout, à un moment donné dans l'étape, c'est ce qu'on appelle l'œcuménisme des mains blessées. C'est très beau cette expression. Elle vient de la parabole du Samaritain parce que c'est oser exposer ses blessures à l'autre. Parce qu'on part du principe qu'on ne peut pas se soigner soi-même. Et c'est un autre qui vient nous prendre et qui nous emmène chez l'aubergiste et qui repart après. Il n'y a pas de mainmise, mais il n'y a pas d'indifférence. Et ça, c'est essentiel. Et la compassion, elle est de cet ordre-là. C'est parce que j'ai été touchée. Et ça, on n'est touché que quand on est proche de l'autre, que quand on peut parler avec l'autre. Et si on se risque à s'exposer justement à l'autre, dans ses forces, mais aussi dans ses blessures, ben moi, je n'ai jamais vu quand l'autre en profitait. J'ai vu qu'on allait dans cette démarche de prière. Je suis aussi vulnérable que l'autre.
C'est une prise de risque, mais sans cette prise de risque...
Que l'évangile transforme, c'est ça que ça veut dire.
Ouais.
L'évangile transforme cette prise de risque en quelque chose qui devient fécond et qui est un surplus de vie.
Merci beaucoup et on se retrouve demain pour conclure ces entretiens de l'heure d'année.